Le journal du soir avec vous, Sonia Bernawormia, bonsoir.
Bonsoir. La navigation est à nouveau autorisée sur le lac de Neuchâtel. Dès demain, les bateaux de croisière pourront reprendre le large, moyennant certaines restrictions. En revanche, l'interdiction prévaut toujours pour les lacs de Bienne et de Mora, ainsi que pour le canal de la Thielle. Pour l'entreprise nautique Bucher et Val de Saint-Blaise, cette situation est économiquement très compliquée. 30 nouveaux bus électriques à batterie devraient sillonner les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds d'ici 2026. Les transports publics neuchâtelois ont lancé un appel d'offres pour renouveler une partie de leur flotte. Le camp suisse récolte sa deuxième médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le vététiste bernois Mathias Flückiger s'est paré d'argent aujourd'hui. Les performances suisses en gymnastique seront aussi scrutées dans notre journal des Jeux. Éclaircies et averses partageront le ciel au fil de la journée de demain. Il fera au mieux 20 degrés dans les montagnes et 25 sur le littoral. La navigation sera à nouveau autorisée dès demain sur le lac de Neuchâtel, décision annoncée en fin d'après-midi par les autorités. La prudence reste toutefois de mise en raison des niveaux d'eau encore hauts et de la présence de débris flottants. En revanche, la navigation reste interdite sur le lac de Bienne, sauf pour les paddles et canoës, sur le canal de la Thielle ainsi que du côté de la Broye et du lac de Mora. Malgré cette première bonne nouvelle neuchâteloise, l'impact économique de ces interdictions est très fort pour les entreprises nautiques de la région. Pour Bucher Revalt, plus grande entreprise du marché nautique en Suisse, est basée à Saint-Blaise. Les interdictions sont et ont été trop restrictives. Le directeur de Bucher Revalt, Romain Valt.
Il y a un grand impact pour nous et pour tout le secteur nautique de la région. Donc pour nous, cette interdiction, elle est clairement exagérée. On comprend tout à fait qu'il ait fallu interdire pendant un certain temps. Maintenant, les raisons de cette interdiction, elles sont claires pour nous. C'est pour sauver les berges qui vont être inondées lorsque des bateaux font des vagues. C'est également pour la sécurité des plaisanciers s'ils naviguent trop vite et ils vont toucher des bois flottants sur les lacs. Mais pour nous, il y a d'autres solutions qu'une interdiction pure et simple. Il me semble évident que finalement, si on limitait la vitesse des bateaux, par exemple aux entrées des ports à 5 km/h et peut-être à 10 ou 15 km/h partout sur le lac, les vagues seraient nettement plus petites, donc il y aurait beaucoup moins de risques pour les berges, comme pour une interdiction. Mais également, lorsque les bateaux naviguent lentement, il n'y a quasiment plus aucun risque de danger avec les bois flottants. Donc cette interdiction nous semble un petit peu exagérée.
Des propos recueillis par Yann Esler, l'entreprise qui a directement écrit au gouvernement neuchâtelois a donc vu un premier lac être désormais exempt d'interdiction. Bucher et Valt avance toutefois que des dizaines de chantiers navals dépendent des navigateurs et l'impact sera immense pour eux dans les mois à venir. Transène se tourne résolument vers l'électrique. Les transports publics neuchâtelois ont lancé un appel d'offres en vue d'acquérir 30 nouveaux véhicules, 18 d'ici 2023 et 12 de plus d'ici 2026. Ils sont en quête de trolleybus articulés déperchables à batterie. L'objectif est de sortir de la circulation les bus à plafond haut en ville de Neuchâtel d'ici 2024 pour respecter la législation en matière de personnes handicapées et de remplacer les véhicules thermiques qui sillonnent la Chaux-de-Fonds. Le point sur les avantages des véhicules recherchés avec Pascal Vieumier, directeur général de Transène.
Nous pouvons rouler des longues portions de parcours sans être perchés. Ça veut dire concrètement quand il y a des chantiers tels que nous avons eu à Neuchâtel le long de l'avenue du 1er mars, eh bien, nous pourrons utiliser ce type de véhicule pour éviter de devoir mettre des bus thermiques à la place. Et puis dans le cadre de la Chaux-de-Fonds, eh bien, ça veut dire que la place de la gare qui n'est pas électrifiée restera telle qu'elle actuellement. Et ces bus-là pourront rouler ailleurs dans la ville et se recharger sous les lignes de contact. Donc ça nous donne une certaine souplesse pour pouvoir rouler où il n'y a pas de ligne de contact. Et dans le cadre aussi de changement de parcours, si on veut prolonger une ligne, par exemple au terme de la ligne 107 à Neuchâtel, eh bien ce type de véhicule correspond tout à fait à pouvoir prolonger une ligne sans devoir l'électrifier.
Autre avantage, sauf erreur, c'est effectivement qu'il n'y aura plus besoin de personnel pour percher ou dépercher un véhicule.
C'est exact. Donc le perchage, déperchage se fait automatiquement sur ce type de véhicule. Donc il y aura des zones qui seront créées pour pouvoir percher automatiquement les véhicules à l'arrêt.
4 entreprises sont en mesure de répondre à cet appel d'offres d'ici au 20 août, selon Pascal Vieumier. Transène communiquera son choix à l'automne pour une mise en circulation des nouveaux bus fin 2023. Le coût de chaque véhicule peut varier entre 600 000 et plus d'1 million de francs. autour de Boudry de passer au QR code pour régler les amendes d'ordre. La commune mettra en place ce système de paiement dès le 16 août. Elle suit l'exemple de La Chaux-de-Fonds qui sert de site pilote depuis septembre 2020. Les usagers qui n'auraient pas le matériel pour régler leur amende d'ordre par QR code recevront leur contravention à leur domicile. Un guide imprimé sur papier, mais continuellement à jour. La motisane Mélanie Maire a rassemblé ses coups de cœur au Val de Travers dans un petit livret. L'ouvrage publié ce printemps présente près de 60 activités à réaliser au vallon, des randonnées, aux lieux d'hébergement en passant par le terroir. Un guide imprimé est figé pour toujours, ce que ne voulait pas l'auteur qui a opté pour l'ajout de QR code Mélanie Maire.
Ça, c'était vraiment dans l'idée de le maintenir à jour, dans le sens où c'est vrai que certains guides, on a une information qui est donnée à tenter, et quand on l'ouvre 6 mois après, tout à coup, ben, il y a des choses dedans qui sont plus actuelles, ou des horaires qui ont changé, ou une saisonnalité qui n'est plus la même. Donc moi, je me suis dit, ben, mets pas trop de détails dans le guide, et plutôt invite les gens à aller regarder les QR codes, donc les sites internet directement des acteurs touristiques cités, ce qui permet d'avoir toujours une information à jour. Donc s'il y a une semaine où il y a une particularité au musée, ben, on le sait, puis on sait à quoi s'attendre. Et je trouvais que c'était important de le mentionner. Comme ça, on peut vraiment prévoir ses vacances ou son séjour ben, de la manière la plus optimale. Puis je trouvais original, vu la période actuelle où les gens ils commencent de plus en plus à les utiliser, ben, je pense que c'était adéquat de le mettre dans un guide.
Et ce guide sur le Val de Travers, il est aussi disponible en allemand, dédié aux touristes. Plus d'informations sur rtn.ch. 20 000 francs, c'est la somme que la Fondation UBS pour la Culture a octroyée mi-juillet au documentaire « Je plus il plus elle égale nous » de la société de production neuchâteloise JMH et Philofilm. À travers un tournage d'une durée de 4 ans dans une classe d'école primaire, la réalisatrice Séverine Bard souhaite comprendre et faire connaître la richesse des interactions entre enfants. Avec 11 langues parlées, 18 nationalités différentes, ce contexte multiculturel a déjà donné à la réalisatrice des souvenirs émouvants. Séverine Bard.
Un truc qui m'a surprise et que j'ai trouvé aussi très touchant, c'est que très vite, il y a eu des rapprochements et des, on va dire, des vraies histoires d'amour ou d'amitié qui se sont créées, mais d'une force qui m'ont surprise. Et entre autres, il y a une petite fille qui s'appelle Tala, qui est la plus petite de la classe, c'est pas la plus jeune, mais c'est la plus petite en taille, et qui, elle, a une capacité d'empathie vis-à-vis des autres. Cette petite fille, ben, avec sa capacité d'empathie, elle a vraiment été rechercher un petit garçon, mais qui, lui, était mais au fond du trou, quoi, qui était tellement submergé par la peur, en fait, d'être tout seul dans cette classe, sans sa maman, etc. Et elle a patiemment et pas à pas comme ça été le chercher en le taquinant, en étant tendre. Le moment où tout à coup ce petit garçon Yacine s'est mis à sourire et à rigoler avec elle, ben j'avoue que ce moment-là, je l'ai trouvé mais hyper émouvant.
Séverine Bard, réalisatrice du documentaire « Je plus il plus elle égale nous » était au téléphone de Siméon Calam. Le tournage doit durer encore 2 ans. Nouvelle action des militants du climat contre la place financière suisse. Des activistes ont remis une série de revendications aujourd'hui à Crédit Suisse sur la Paradeplatz à Zurich. Ils demandent l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles. Ils appellent aussi à une plus grande transparence en matière de flux financiers vers ce secteur. Le pass sanitaire devient réalité en France. Le Parlement a trouvé un accord hier soir. Dès le 1er août, l'accès à de nombreux lieux publics sera conditionné à la détention de ce document. Restaurants, bars, salles de concert, zoos ou encore festivals, par exemple. Ce pass doit assurer que son propriétaire est soit vacciné, testé négatif ou guéri du coronavirus depuis plus de 11 jours et moins de 6 mois. Rappelons que le certificat Covid suisse est valide dans toute l'Union européenne. Une Croate d'1m93 rallie le NUK en Liga féminine de volleyball. Le club neuchâtelois a annoncé aujourd'hui l'engagement d'une nouvelle joueuse étrangère, Barbara Dapic. Cette attaquante diagonale de 26 ans a été recrutée à la suite du retrait inattendu de l'américaine Holly Tolliver. Et Pascal Boux est de retour en sélection nationale. L'athlète des Hauts-Genevais a été retenu pour la manche de la Coupe du Monde de course d'orientation qui se tiendra à Idrefjell du 12 au 15 août prochain en Suède. Pascal Boux disputera l'épreuve de longue distance. Il est donc de retour au premier plan après avoir été handicapé par une blessure ce printemps qui l'avait notamment empêché de prendre part au championnat d'Europe de sprint. C'était en mai dernier à Neuchâtel.
18h10, tout pile, l'heure de partir en direction du Japon.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Cette journée olympique a été marquée par la récolte d'une deuxième médaille pour le camp suisse après le bronze de Nina Kristen en tir. Mathias Flückiger s'est paré d'argent dans la course de VTT aujourd'hui. Le VTTiste bernois s'est classé deuxième à 21 secondes du Britannique Tom Pidcock. Tenant du titre, Nino Schurter échoue au pied du podium. Lauréat des deux dernières manches de la Coupe du Monde, Mathias Flückiger a trouvé plus fort que lui sur le parcours olympique, mais l'argent lui va déjà très bien.
Ja, es ist ja grundsätzlich alles gut gesehen. Es kann nicht alles in so einem Rennen perfekt gehen. So ein harter Rennen, es ist technisch gesehen. Man hat es vorher schon gewusst. Man muss sich mega konzentrieren.
Oui, dans l'ensemble, c'est bien allé. Je ne pouvais pas espérer faire une course parfaite, car c'est un parcours technique. Il fallait être super concentré dans les portions de descente, mais aussi dans les montées. Avec la traction, ce n'était pas simple. Il fallait bien gérer le pédalage. On l'a vu au premier tour, Mathieu Van Der Poel a été piégé et est tombé. Je ne savais pas que ce serait terminé pour lui. C'était impossible de faire la course parfaite, mais au début, je me suis dit que si je parvenais à imposer mon rythme, c'était possible de gagner. Mais à la fin, c'est une médaille d'argent, c'est comme ça.
Les volleyeuses suisses se hissent en huitième de finale du tournoi de beach volley. La paire composée d'Anouk Verger-Després et de Johanna Heinrich s'est qualifiée après avoir fêté son deuxième succès en autant de matchs dans le tour préliminaire contre une paire hollandaise sur le score de 20-22-20, 22-18. Et puis, ce n'est peut-être pas une médaille, mais la gymnastique masculine helvétique n'avait pas atteint ce niveau depuis longtemps. À Tokyo, les gymnastes suisses ont pris la sixième place de la finale olympique du concours par équipe. Derrière les intouchables russes, japonais et chinois qui se sont livrés une lutte à couteau tiré. Le quatuor helvétique a dépassé ses propres espérances. Les précisions de notre envoyé spécial à Tokyo, Emily Mumenthaler.
Sortis 7e des qualifications, les Suisses se sont montrés très homogènes et ont été portés par un esprit de groupe extrêmement positif pour gagner une place. Ils ont commis un quasi sans faute à chaque appareil et ont su prendre des risques. Pablo Breguer, par exemple, a brillé à la barre fixe, se reprenant après sa chute en qualification pour ce qui était le dernier concours de sa carrière. Ce résultat marque l'apogée d'une génération dorée qui a évolué ensemble depuis plusieurs années. Ils ont ainsi confirmé leur progression après le crève-cœur de Rio il y a 5 ans, où ils avaient échoué de justesse à se qualifier pour la finale. Il faut remonter à 1984 à Los Angeles pour trouver trace d'un meilleur classement par équipe des Suisses, alors 5e. Mais ces Jeux avaient été boycottés par les pays de l'ex-bloc de l'Est. La performance de Tokyo se rapproche ainsi davantage de celle des années 50 et n'est pas loin de constituer un résultat historique.
Le rêve olympique de Thomas Koechlin a pris fin en demi-finale de l'épreuve de slalom de canoë. Le Genevois a terminé au 13e rang. Il a écopé de 3 pénalités qui lui ont alourdi son temps de 6 secondes. C'était 2 fautes de trop pour espérer passer l'épaule. La déception était de mise pour celui qui disputait ses premiers JO, Thomas Koechlin.
Ce que j'en retire principalement, c'est que je me suis éclaté sur la préparation. C'était génial de préparer un événement comme ça. J'ai été vachement soutenu. J'ai vécu des moments super intenses, je me suis vraiment régalé, même sur l'eau, sur les qualifs. Puis après, j'aimerais comprendre un peu comment on fait pour se libérer sur des grands événements comme ça. Même si là, j'ai vu que personne s'est libéré sur une demi-finale des Jeux Olympiques. Mais au moins, arriver à sécuriser une manche. Et j'ai vu aujourd'hui qu'il n'y avait pas non plus à vraiment se transcender, quoi.
Et en tennis, Belinda Bencic affrontera la Tchèque Barbora Krejčíková, récente lauréate du tournoi de Roland-Garros en 8e de finale du simple dames. Belinda Bencic s'est qualifiée après avoir éliminé ce matin la japonaise Misaki Doi, 6-2-6-4. Victoria Golubic a en revanche échoué contre une autre japonaise, Naomi Osaka, sur le score de 6-3-6-2. Matteo Sanslans est toujours en course pour une médaille en planche à voile. Le Suisse des Baléares occupe la deuxième place après 6 des 13 régates au programme. Sorti en tête dimanche après la première journée, Matteo Sanslans a été moins en vue aujourd'hui. Il est désormais devancé par l'Italien Mattia Camboni. La dernière médaille olympique de la voile suisse remonte à 1968 à Mexico. Les marins suisses peuvent d'ailleurs mettre fin à 53 ans de disette à Tokyo. C'est du moins le souhait de Sébastien Schneider et de Lucien Cujan. Les Genevois entrent en lice demain en 49er. Première régate à 7h50 du matin dans la baie d'Enoshima. Le challenge sera d'être régulier en régate, selon Sébastien Schneider.
Je pense que c'est très dur à dire parce qu'on a vu sur les entraînements que c'était vraiment serré sur un plan d'eau assez ouvert. Et ce qu'on a vu sur ces quelques journées d'entraînement, où on fait aussi des régates d'entraînement, c'est que c'est très difficile d'être régulier. Donc, même les tout meilleurs, comme le Kiwi par exemple, peuvent très bien faire des manches de dernier. Tout le monde dans notre flotte arrive à gagner des manches. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir être régulier pour être devant. Et je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a personne à l'entraînement qui a montré ça encore.
Les épreuves de voile se tiennent à près de 80 km du centre névralgique des JO, loin de l'effervescence de Tokyo et du village olympique. Les marins ont pu prendre leur repère pour être pleinement concentrés sur leur mission. Lucien Cugent.
On est bien acclimaté, le jet lag est passé comme une lettre à la poste. Et puis, on se fait vraiment plaisir là. On a un petit peu une routine chambre, bus, port, port, bus, chambre. Mais sinon, on s'y fait vite. Et puis. Et je crois que surtout, c'est pas plus mal parce que comme ça, on est vraiment au taquet sur l'eau. Puis on se réjouit toujours du lendemain pour être sur l'eau à régater et puis à avoir cette petite eau salée du Japon, quoi.
Un dossier de notre envoyé spécial au JO, Emily Mumenthaler. Sébastien Schneider et Lucien Cugent navigueront lors de 12 courses avant d'espérer prendre part à la régate pour les médailles le 2 août. Et puis deux défaites en deux matchs pour Sabrina Jacquet dans le tournoi de badminton. La Chaude-Fonnière s'est inclinée 21-10, 21-14 devant la Française Qi Xiufei aujourd'hui en match de groupe. Elle doit encore disputer un troisième match de poule. Noé Ponti et Maria Ugolkova peuvent eux viser une finale en natation. En série, le Tessinois et la Zurichoise ont tous deux signé le cinquième temps de leur discipline respective avec un nouveau record de Suisse à la clé. Noé Ponti a nagé le 200 mètres papillon en 1 minute 55 secondes 05. Maria Ugolkova a couvert le 200 mètres 4 nages en 2 minutes 10 secondes 4. Les demi-finales ont lieu demain et le départ du triathlon féminin sera donné à 23h30 cette nuit, soit à 6h30 au Japon. À 39 ans, Nicolas Spirig rêve d'une troisième médaille olympique après l'argent de Rio et l'or de Londres. Et puis les médaillés des JO bénéficieront désormais d'un petit bonus supplémentaire pour ceux qui décrochent une médaille, justement. Ils pourront enlever leur masque pendant 30 secondes, le temps de faire des photos sur le podium. Très belle soirée.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Merci Sonia, vous n'oubliez pas de m'amener ma médaille pour que je puisse enlever mon masque ce soir. Allez, on passe à la météo. Après un week-end passablement maussade et un lundi sur courant alternatif, nous devrions connaître une soirée sous le signe des averses et des orages qui éclateront sur le Jura avant de déborder par endroits sur le littoral. La journée de demain commencera avec de belles éclaircies encore au lever du jour, mais nous serons à nouveau dans une journée changeante avec une rapide augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest avant une amélioration au fil de l'après-midi avec le retour de davantage d'éclaircies, principalement au pied du massif jurassien. Le thermomètre, lui, sera de saison, un peu frais quand même pour la saison. 20 degrés attendus demain sur les hauteurs du canton, 24 degrés à Neuchâtel et 25 sur la Broye et le Nord-Vaudois.